Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 23 novembre 2012. Un seul grand thème au menu de notre débat de ce soir, à savoir la situation sécuritaire au Nord Kivu. Je reçois dans cette émission pour en parler Giscard Koussema, directeur général de la radio-télévision Canal Futur, une télévision qui émettait, puisque le signal est coupé, depuis Kinshasa. Bonsoir Giscard.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous.
Harold Bellarmin Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, une chaîne de télévision et radio privée aussi, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Harold.
Bonsoir Kelly.
Nous devrions avoir Ali Boukassa, rédacteur en chef de la radio-télévision Tout Tenté, émettant depuis Mwenedito, Kassa Oriental. Malheureusement, on a des petits problèmes techniques pour le joindre. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui à l'étranger. Merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, voyons comment la presse écrite quinoise a traité cette actualité sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu.
Bonsoir. La prise de Goma par les rebelles du M23 fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. La tempête des tropiques titre Goma conquis par le Rwanda. Les pseudo-rebelles diffusent leur message à la RTNC Goma et contrôlent l'aéroport. Pendant ce temps, les sièges du PPRD et de la majorité présidentielle saccagés à Kisangani, des chars de la MONUSCO incendiés, le gouvernorat de la province orientale attaqué, les Kinois interdits de manifester, conclut ce journal. Devant cette situation de la prise de Goma, Joseph Kabila appelle à la mobilisation générale, rapporte le potentiel. Pour le Phare, la chute du chef-lieu du Nord Kivu est ressentie par des millions de Congolais et Congolaises comme une humiliation nationale. En réaction à cette prise de Goma par le M23, l'Avenir titre, prise de Goma par le Rwanda, les députés très fâchés vers un état de siège en RDC. Dans la recherche des solutions à cette crise, la prospérité annonce la décision de la tripartite Kabila, Kagame et Museveni. Les trois chefs d'État congolais, rwandais et ougandais réunis au sommet à Kampala dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont appelé le M23 à stopper toute progression et à se retirer de Goma dans le Nord Kivu. Pour sa part, Kinshasa se serait engagé à examiner sans tarder les causes du mécontentement du M23 et à y répondre dans la mesure du possible, indique la prospérité. C'est dans cette optique que le président du M23, Jean-Marie Runiga Lugerero, a été convoqué d'urgence à Kampala par le président Yoweri Museveni. Le Phare souligne que l'opposition congolaise juge les sommets inutiles. Les forces acquises au changement ont souligné que l'échec des différents sommets organisés sous l'égide de la CIRGL traduit le manque de leadership au sommet de l'État qui déclenche chez les Congolais le sentiment d'humiliation, de frustration et de colère. L'Avenir parle tout de même d'une bonne nouvelle et d'une victoire diplomatique pour le peuple congolais et son chef à Kampala. Mais ce journal se demande tout de même si peut-on faire confiance à Paul Kagame. Le potentiel estime que Kinshasa serait dans le piège de Kigali. Pour ce quotidien, que les pyromanes soient chargés d'éteindre le feu qu'ils ont allumé, cela sent un piège à mille lieues. Et Kinshasa y est tombé en misant sur la simple déclaration de bonne foi de Kigali et de Kampala.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Giscard Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur, une télévision qui émettait, je l'ai dit dans l'introduction, depuis Kinshasa, dont le signal a été coupé. Où est-ce que vous en êtes d'abord avec ce dossier?
Cela fait maintenant une année, donc ce fut le soir du 28 novembre 2011 que le signal de cette télévision a été coupé par une personne qu'on n'a jamais identifiée jusqu'ici. Et nous n'avons cessé de le dire, il y a un côté mystérieux dans la gestion de ce dossier. Trois premiers ministres se sont succédés, trois ministres, deux gouvernements, deux législatures, et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été notifiés par une quelconque autorité. Et même lorsqu'on s'est conformé à la loi, personne n'est aujourd'hui en mesure. Et voilà, voilà le Congo d'aujourd'hui, voilà la presse d'aujourd'hui. Donc il y a un côté mystérieux de cette affaire. Et même lorsqu'on publie la liste des chaînes de télévision qui ne qui ne sont pas en ordre, nous ne figurons pas. Et donc, à ce jour, nous sommes la seule parmi les télévisions en ordre, mais qui ne mettent pas part de la volonté des inconnus. Nous allons en reparler parce qu'on aura une année dans les jours qui suivent.
Voilà, alors un mot sur le traitement de la situation sécuritaire au Goma par la presse quinoise.
Écoutez, la densité événementielle impose pratiquement le média congolais, le média quinois en particulier, de pouvoir parler de cet événement qui s'invecte de lui-même. Mais le constat en tant que professionnel de média, c'est que les collègues journalistes se limitent à relayer, à faire le monitoring d'autres médias. On s'arrête sur les factuels, on ne s'intéresse pas aux effets collatéraux que cela entraîne. On est emporté par la danse politique à relayer des déclarations des uns et des autres, mais on ne creuse pas dedans pour voir les effets collatéraux par rapport à la vie de la population, par rapport à la circulation des personnes et des biens. Lorsqu'on sait que Goma est un enjeu important, est un véritable verrou, nul ne peut aller à Goma, Beni, à Bukavu, Beni, Butembo sans passer par Goma. Donc voilà un aspect qui est pratiquement abandonné. On s'intéresse à relayer des médias, à la guerre des mots et tout ça, mais sinon c'est un événement qui s'impose de soi-même.
Merci Giscard Koussema, Harold Bellarmin, Badi Banga, secrétaire de rédaction à la RTGA, émettant depuis Kinshasa. Vous pensez aussi comme Giscard que la presse congolaise ne creuse pas ce dossier, on se limite juste aux simples déclarations?
Non, mais il faut d'abord, comme préalable, dire, creuser, c'est quoi? Simple déclaration, c'est quoi? Lorsqu'un journaliste congolais de mon état, je traite l'information de Goma en disant qu'effectivement, Goma est tombé dans les mains des Rwandais avec leur marionnette appelée communément M23. Et je vais au-delà pour décrier les dégâts qu'il y a, surtout du point de vue du déplacement massif de la population, les viols, les violences, les pillages, du patrimoine congolais, et en tant que journaliste, je lance un cri d'alarme pour que ceci cesse, et posant même des conditions en disant que chaque parti impliqué dans ce qui se passe à l'Est doit prendre sa responsabilité pour que ceci cesse. Je crois que c'est prioritairement ça le rôle du journaliste, qui est de traiter l'information sans parti pris. Je ne sais pas, quand on dit qu'on ne s'occupe pas des effets collatéraux, de quels effets collatéraux on parle, si ce n'est les viols, les pillages que nous sommes en train de décrire. Donc, in fine, je pense que le journaliste congolais, particulièrement celui de Kinshasa, est préoccupé seulement et prioritairement par cette affaire de l'Est qui fait couler encre et salive dans le chef de chacun d'entre nous.
Merci, Bellarmin Badi Banga. Vous le savez, les rebelles du M23 sont entrés dans la ville de Goma aux environs de 11h mardi dernier. Ces rebelles occupent tous les chefs-lieux de cette province. Quant aux forces armées de la RDC qui se sont retirées vers la cité de Sake à 27 km au sud de Goma, ils ont dit avoir abandonné la ville pour pouvoir se réorganiser. Actuellement, la cité de Sake, elle aussi est tombée aux mains des rebelles du M23. Gisèle K, j'ai assisté à l'entrée des rebelles, voici son récit.
Munis de leurs armes, de caisses de munitions, les éléments du M23 ont franchi les portes de la ville du côté nord après les affrontements avec les FARDC qui ont duré pratiquement une semaine. Des curieux sont sortis nombreux dans les rues de Goma pour observer l'arrivée de ces combattants. Certains habitants applaudissaient, tandis que d'autres se disaient déçus que l'armée gouvernementale n'ait pu résister face aux rebelles. Plusieurs sources confirment que les endroits stratégiques de la ville, tels que la radio-télévision nationale congolaise, le camp militaire Katindo, sont totalement sous contrôle du M23. Pratiquement tous les quartiers sont également entre les mains des rebelles qui envisagent déjà de progresser vers Sake, 27 km de la ville. C'est à Sake justement que les FARDC sont actuellement regroupés et où ils tentent de s'organiser pour reprendre la ville de Goma selon des sources militaires. Cet après-midi à Goma, la circulation a repris timidement, mais tous les commerces sont restés fermés. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi.
En réaction à la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, demande au peuple congolais de se battre pour atteindre l'objectif d'une paix durable. Dans une interview accordée mardi dernier à la presse présidentielle, Joseph Kabila appelle à la mobilisation générale de la population congolaise sur l'ensemble du territoire national. Harold Bellarmé, Badi Banga, quelle analyse vous faites de la chute de la ville de Goma?
Vous savez, madame, lorsque nous parlons de la chute de la ville de Goma, une analyse faite de manière lapidaire n'est pas bonne. Il faut creuser la chose pour dire que lorsque même une seule partie, petite, infime soit-elle, de la République est tombée sous les mains des rebelles, en tout cas, c'est pas un fait à féliciter, c'est la preuve que quelque part, il y a eu défaillance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais cependant, il ne faut pas que l'on se limite à condamner, à crier, parce que quand on condamne sans proposer des pistes de solutions, quand on crie sans faire de projection, on ne fait rien. C'est en se lamentant, en se criant, que les forces rebelles pourront avancer et peut-être arriver jusqu'à Kinshasa. Moi, je me dis que la première des choses ici, c'est la prise de conscience que lorsque la ville de Goma est tombée, on a commencé par le Masisi, et les bruits de l'or de l'avancée de M23 sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Les dispositions ont été prises pour que non seulement ces forces n'arrivent pas à Goma, mais aussi qu'on les élague du territoire de Masisi, mais cela n'est pas arrivé. C'est tout simplement la concrétisation de ce que j'ai toujours appelé dans cette émission le complot international qu'il y a contre la République démocratique du Congo.
Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement a pris à traiter cette question avec légèreté?
Non, pas du tout, Madame, les hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Avant d'analyser une question, on doit prendre des précautions pour ne pas être impartial à tout bout de champ. Et là, il faut commencer, comme on le dit dans la tradition africaine, attaquer le taureau par les cornes. Un fait est vrai, les FARDC n'ont pas fait offensive jusqu'à la fin pour sécuriser la ville de Goma. C'est une défaillance, mais il faut toujours dire qu'au-delà de tout ça, nous avions toujours prôné dans cette émission que l'agression de la République démocratique du Congo étant déterminée par la communauté internationale, l'utilisation du chapitre 7 s'impose. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies attend pour donner à la MONUSCO l'autorisation d'utiliser le chapitre 7? Encore que journaliste congolais de mon état, j'étais ahuri de constater que lorsque les forces rebelles ont pris la ville de Goma Kelly, à leur côté, il y avait les chars de combat de la MONUSCO qui les accompagnaient.
On va suivre la réaction du porte-parole militaire de la MONUSCO, Harold Bellarmé Badibanga, Giscard Koussema. Votre analyse à vous par rapport à cette chute de la ville de Goma. Dans le récit, dans le reportage de Gisèle Cage, on a vu qu'il y avait parmi la population ceux qui applaudissaient et ceux qui étaient déçus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie de la population qui soutient ce mouvement rebelle?
Écoutez, on a cessé de donner de signaux d'alerte. C'est regrettable qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'on commence à perdre des villes, qu'on essaye maintenant de chercher, de trouver des solutions. C'était prévisible. Il y avait une tension sociale sur le plan interne ici. On ne cessait de le dire, mais on a une gouvernance par défi, on n'a pas voulu creuser là-dessus. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre à votre question, revenir sur certaines évidences qui sont indiscutables. Pour qui connaît Goma? Je l'ai dit au début. Goma, tout d'abord, c'est un carrefour. Et donc, la chute de Goma, en fait, crée un véritable couloir pour Beni, Butembo et Bukavu. Vous le savez, tous les vols commerciaux s'arrêtent à Goma et c'est à partir de Goma qu'on essaye d'aller ailleurs. Donc, lorsque Goma échappe au contrôle du gouvernement central, ça signifie que toutes les autres villes qui dépendent de Goma échappent également au contrôle de la ville. Deuxièmement, sur le plan de la stratégie de la défense, vous le savez, la ville de Goma était un véritable verrou. Aujourd'hui, on peut même dire que c'est le coin ou en dehors de la capitale où il y a la grande concentration des éléments armés de la République République démocratique du Congo, donc l'armée officielle. Et même côté de la MONUSCO, vous n'allez pas me contredire, Kelly, que c'est à Goma où la MONUSCO a déployé le plus important de son arsenal. Et lorsque Goma tombe, mais écoutez, il ne revient pas à moi de conclure. On constate simplement que le reste est plus facile. Et donc, si l'on y prend garde, à partir de la chute de Goma, beaucoup d'autres villes deviennent en couleur. Donc, c'est cela. Pour revenir à votre question, je voudrais, dès le départ, qu'on se mette d'accord sur cette espèce de cacophonie communicationnelle que constatait ici à Kinshasa. D'aucuns parlent d'une agression du Rwanda et d'autres parlent de rébellion soutenue par le Rwanda. Dans les deux cas, le Rwanda a une certaine responsabilité dans ce qui arrive, c'est une autre évidence. Mais il faudrait que la responsabilité du Rwanda soit dégagée par rapport à ce que l'on pense, par rapport au rôle que joue le Rwanda. Si il s'agit de l'agression, qu'on les dise que c'est une agression, on le démontre et on déclenche les mécanismes constitutionnels, on déclare la guerre au Rwanda, le mécanisme est clair, on va au Parlement, on déclare la guerre, on rompt les relations diplomatiques et on est en guerre ouverte avec le Rwanda. Or, il me semble que de ce côté-là, en dehors des déclarations, il n'y a rien qui est fait. Et même la deuxième preuve, lorsque le gouvernement congolais est allé aux États-Unis, au sommet de New York, ils ont été incapables de faire adhérer à tout le monde la thèse de l'agression. Vous le savez, c'est pas moi de les dire. Les preuves ont été insuffisantes. Même le seul pays, la France, qui soutient la République démocratique du Congo, a déclaré par la suite, comme les États-Unis, que les preuves étaient insuffisantes pour qu'on parle d'une implication du Rwanda. Deuxièmement, ici, le chef de l'État, avant d'aller à Kampala, il nous a dit, cette fois, c'est une rencontre de vérité, je vais là-bas pour avec des preuves pour déclarer. Mais on constate que le sommet se termine par une simple déclaration qui n'a aucune incidence coercitive et donc on n'a même pas parlé d'agression du Rwanda et donc nous retombons dans la rébellion. Et donc, si on doit traiter les MV3, c'est une rébellion et donc il faut prendre langue avec la rébellion. Et il semble que c'est cette deuxième voie-là qui est en marche parce qu'on a suivi les déclarations. Le ministre de l'Information l'a dit, il faut maintenant négocier avec le Rwanda et même le sommet de Kampala. Alors, il faut deux choses. L'une, ou c'est l'agression, on déclenche les mécanismes de la guerre, ou c'est une rébellion, et alors on cherche des solutions que d'aucuns avaient déjà prévenues depuis plusieurs mois.
Pour vous, vous pensez que cette situation était prévisible, mais comment expliquer la défaite des FRDC et de la MONUSCO dans les affrontements autour de Goma? La MONUSCO n'a pas laissé les M23 entrer librement dans la ville de Goma. Elle a plutôt combattu aux côtés des FRDC à Kibumba jusqu'à ce que celle-ci ait replié jusque dans la ville de Goma. C'est ce qu'a affirmé mercredi dernier à Kinshasa le porte-parole militaire de la MONUSCO. Pour le colonel Félix Basse, le mandat de la MONUSCO s'est limité à appuyer les FRDC dans différentes opérations qu'elle mène. Les forces des Nations Unies étaient obligées de retourner à Goma suite au repli de leurs partenaires, les FRDC, précise Félix Basse dans cet extrait proposé par Michel Kifinda.
Cette attaque a démarré le 15 et il faut reconnaître que le 15, des succès ont été quand même engrangés par les FRDC qui ont pu repousser l'ennemi et lui infliger des pertes conséquentes. Mais les lignes qui étaient à Kibumba ont été brisées. Les FRDC ont décroché pour revenir au niveau de Kamahoro et on continue à défendre avec hargne les positions au niveau de Kamahoro. Et dans cette défense qui a commencé à Kibumba, la force de la MONUSCO a apporté tout son soutien aux FRDC en engageant ses hélicoptères d'attaque qui, dès le premier jour, ont fait une dizaine de sorties et tiré un nombre inestimable de munitions, de roquettes et même de missiles. Les FRDC ont décroché pour aller se réorganiser au niveau de Munigi. Donc, cette ligne qui était hermétique a été brisée. Mais quand les FRDC ont décroché, nous sommes restés. Nous avons continué à engager le M23 pour essayer de le dissuader de faire toute avancée significative vers la ville de Goma.
Mais l'armée, vous disiez tout à l'heure que vous étiez étonné de savoir que les M23 sont entrés dans la ville de Goma alors que la MONUSCO était présente. Vous avez suivi les explications du porte-parole militaire. C'était une opération conjointe entre FRDC et MONUSCO. Et donc, quand les rebelles se sont approchés de la ville de Goma, les FRDC se sont retirés. Et pour lui, la MONUSCO ne pouvait pas combattre. Seuls sont les FRDC qui est leur partenaire.
Écoute, Kelly, moi, je ne veux pas entrer dans le jeu des ping-pong entre le gouvernement, la MONUSCO, les M23. M23. Devant les faits, on s'incline et les faits me démontrent que la ville de Goma est tombée. Ce dont je parlais, c'était pas la présence de la MONUSCO seulement, mais le fait qu'à l'entrée de ces forces rebelles dans la ville de Goma, elles étaient aux côtés des chars de la MONUSCO. Ça, c'est du vécu. Je crois que le colonel Bass lui-même a vu ça s'il était sur place à Goma. C'est ça que je déplore, à moins que l'on me dise que l'observation dont question dans la mission de toutes, dans les prérogatives de toutes les missions d'observation de l'ONU, c'est d'accompagner une force rebelle qui prend une partie d'un territoire donné. Cela étant dit, il ne faut pas que l'on... Et c'est d'ailleurs ça même le sens de ma lutte, pour qu'on ne nous dise pas plus tard que nous n'avons que la mission d'observer et non de combattre. C'est pourquoi j'ai toujours milité
au... C'est le mandat de la MONUSCO.
Oui, c'est le mandat de la MONUSCO, mais pour éviter qu'on nous le dise encore et toujours, voilà pourquoi j'ai toujours milité que ce mandat change, parce que c'est prévu dans les us et coutumes de la charte portant Organisation des Nations Unies. Alors, il ne faut pas que l'on aille toujours de champ en champ. Voilà, c'est l'organisation, alors que c'est cette observation qui est la plus coûteuse de toutes les missions onusiennes à travers le monde. Alors, si on est là seulement pour observer, à quoi ça sert? Il faut quitter le sol de la République démocratique du Congo et laisser les Congolais être tués comme des mouches par l'entremise du Rwanda, qui n'est qu'une marionnette des grandes puissances internationales, au lieu de continuer avec ce slogan-là. Je voudrais préciser aussi qu'il ne faut pas que l'on fasse croire à l'opinion ici que les Congolais n'ont jamais accrédité ou fait accréditer la thèse de l'agression dont ils sont victimes aujourd'hui. Ou bien on veut faire la nuance entre le fait qu'on a parlé de l'agression, mais sans citer nommément le Rwanda du haut de la tribune des Nations Unies. Si c'est cela, qu'on le dise. Quand le chef de l'État avait dit que le Congo est agressé par des pays étrangers, à moins que l'on nous dise qu'il n'y a que le Rwanda qui est complice dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a aussi l'Ouganda, et que moi je qualifie que, et même le Burundi, je les qualifie tous de marionnettes, de girouettes, de grandes puissances internationales que j'ai toujours eu le courage de citer ici. Je cite les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Ce sont ces trois pays qui sont à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, partir de là pour conclure qu'on n'a jamais eu le courage de faire accréditer ou d'accréditer la thèse selon laquelle la RDC est agressée, je crois qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Il faut tout simplement constater que si nous continuons avec ce jeu de ping-pong, si nous continuons avec ce jeu du genre tel a dit, tel n'a pas dit, nous allons perdre ce pays. C'est le moment de la cohésion nationale, de l'unité, surtout de la prise de conscience.
Jusqu'à Koussema, on parle de l'échec de la MONUSCO et de la communauté internationale. Votre point de vue?
Écoutez, je voudrais d'abord revenir sur une chose. Le mal des Congolais, c'est de croire que les solutions à leurs problèmes doivent venir d'ailleurs. C'est pourquoi l'on est toujours prisonnier des sommets, des forces internationales. Non, l'échec des FARDC ne doit pas se justifier par la MONUSCO. J'ai religieusement suivi le porte-parole militaire. Il a été clair là-dessus. Il a même répondu aux journalistes, mais pourquoi ne pas poser des questions pertinentes à d'autres personnes? La MONUSCO n'est qu'un bouc émissaire, un bouclier. Il vient en appui à une force. Mais cette force, on constate qu'elle n'existe presque pas. Aujourd'hui, on reconnaît ce que tout le monde savait déjà. Je crois que le chef de l'État qui a pris la décision est la dernière personne à le savoir, parce qu'au sein de l'opinion, on savait déjà que certains officiers étaient des affairistes.
Du général Amissi,
bien sûr que c'était un affairiste, et ça c'est connu de tout le monde. Et c'est peut-être le chef qui est le dernier à le savoir. Donc, on ne doit pas justifier cela pour dire qu'aujourd'hui toute la responsabilité devient à la MONUSCO. Les solutions des Congolais doivent être trouvées par les Congolais eux-mêmes. Mais ce qui devrait nous écœurer le plus, c'est de voir que là où on a mis 17 000 hommes, on a déployé les hélicoptères des combats, des tanks et tout ça, là où l'armée du monde, c'est comme cela en fait, l'armée du monde a été là, là où les FARD sont déployés le plus d'hommes, c'est tombé comme des châteaux de cartes, et donc il y a moyen de craindre le pire. Il faut prendre une et une option, et le plus tôt, avant de perdre les restes des villes, parce que la panique a fait que, au niveau de la communication du gouvernement, mais il y a des révélations troublantes. Alors qu'on pensait que leur discours pouvait mobiliser des gens, ce sont les effets pervers aujourd'hui, les preuves sont là, partout, l'on manifeste non pas pour soutenir le gouvernement, mais bien au contraire, c'est pour dénoncer l'inefficacité du gouvernement, l'inefficacité de la MONUSCO. L'histoire récente nous renseigne qu'en 1998, lorsque une rébellion a commencé, le gouvernement procédait par la même stratégie. On a parlé cette fois-là du gouvernement de la coalition Ougando-Rwando-Burundaise. Les mêmes musiciens qui chantent aujourd'hui ont été mobilisés. Cela n'a donné aucun effet. Et la solution, ce n'était pas des militaires zimbabwéens, angolais qui sont venus. C'était autour d'une table. Les gens ont peur parce qu'ils estiment qu'ils vont perdre certains avantages. Non, se mettre autour d'une table, c'est pas seulement pour partager les pouvoirs. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui étaient en 98 de l'autre côté de la rébellion qu'on qualifiait d'une agression au Rwando-Burundaise. Et
merci,
ils sont là.
Merci Giscard Koussema. Au chapitre réaction, le gouvernement congolais déclare avoir perdu la bataille, non la guerre. Le premier ministre Augustin Matata Mponyo, qui l'a dit mercredi dernier à la presse, rassure que la victoire est de son côté. Il promet que son gouvernement est déterminé à mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour le rétablissement de la dignité du pays et de l'autorité de l'État, l'intégrité du territoire national n'étant pas négociable. Mais pour cela, il en appelle à l'unité et à la solidarité de la classe politique, toutes tendances confondues. Les propos d'Augustin Matata Mponyo, Premier ministre, sont recueillis ici par Innocent Olenga.
En accord avec le président de la République, les gouvernements déplorent la situation catastrophique qui se déroule dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. À la suite, évidemment, des visées de ce fameux mouvement dit M23 qui est ouvertement soutenu par l'armée régulière rwandaise. L'agression est donc établie, vous vous en doutez bien. Les gouvernements réaffirme aux populations de Goma, comme celle de l'ensemble de la province du Nord Kivu, qu'il est de cœur avec elle pendant toute cette période de dure épreuve. Le gouvernement rassure la population que nous avons certes perdu la bataille, mais pas la guerre, et que la victoire nous appartient. C'est bien la volonté de l'ensemble de la population congolaise. Plus que jamais, la patrie doit demeurer soudée pour préserver la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Cette intégrité, elle est non négociable. Et cela exige de nous tous, Congolais et Congolaises, toutes tendances politiques confondues, beaucoup de sacrifices, beaucoup de patriotisme et beaucoup d'unité. Le gouvernement est donc déterminé et ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre tout ce qui peut être fait pour le rétablissement de la dignité de notre pays et de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national.
La plateforme politique Force acquise au changement, FAC, appelle à la mobilisation de toute l'opposition congolaise pour sauver la RDC en guerre. Cet appel a été lancé aussi mercredi dernier à Kinshasa au cours d'une déclaration politique faite à la presse nationale. FAC place donc l'occupation de Goma sous le signe d'une haute trahison. Écoutons un extrait de la déclaration des FAC lue par son modérateur Lisanga Bonganga au micro de Radio Capine.
C'est sans surprise que les forces acquises au changement, opposition, ont appris la chute de la ville de Goma et son occupation par les troupes du M23, dissidence de la majorité présidentielle et bras séculier du Rwanda. Elles considèrent que le président de la République tombe sous le coup de haute trahison conformément aux articles 164 et 165 de la Constitution. Elle félicite les parlementaires de l'opposition pour avoir demandé la convocation du Congrès qui doit décider de la mise en accusation pour haute trahison du président Kabila. Elle lance un vibrant appel à l'unité de l'opposition pour sauver la nation en danger. À cet effet, elle propose la tenue immédiate d'un dialogue national franc et inclusif comme voie de sortie des crises.
Le MSR, parti de la majorité, de son côté, invite le peuple congolais à ne pas céder au désespoir et au découragement. Ce parti dénonce la duplicité de certains ténors de la communauté internationale dont les faits apparents divergent de leurs déclarations concernant les dispositions contraignantes à opposer aux pays agresseurs, donc le Rwanda et l'Ouganda. Les évêques présidents des conférences épiscopales d'Afrique et évêques présidents des Caritas d'Afrique aussi ont réagi, demandent à privilégier un dialogue dans la vérité et la transparence pour trouver de toute urgence une solution juste et concertée capable de mettre définitivement fin aux souffrances des populations civiles de l'Est de la RDC. Le réseau national des ONG des droits de l'homme demande la démission de certains membres du gouvernement pour avoir failli à leur mission. Et si Joseph Kabila, président de la République, ne répond pas à la demande du RENADOC, l'ONG constatera tout simplement qu'il s'agira d'une haute trahison. Ils sont au sommet de l'État. Bellarmin Badibanga, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, c'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa beaucoup de réactions après la chute des Goma. On parle même de haute trahison.
Non, c'est de la distraction. Je suis, en ma qualité de journaliste congolais, très déçu de constater que dans la quasi-totalité des réactions qui sont faites, on ne propose rien de concret par rapport à ce qui doit être fait pour bouter hors l'ennemi de la République.
L'opposition a proposé un dialogue franc.
Non, madame. C'est ça qui prouve que nous sommes dans la ventriocratie et non dans la démocratie. Nous avons des ventriotes et non des politiciens. Nous avons un problème. C'est la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
Propose un dialogue dans la vérité et la transparence.
Et aussi de la distraction. Pour le moment, c'est de la distraction. Je suis désolé, je suis chrétien catholique, convaincu et convaincant. Mais je dis que c'est de la distraction. Aujourd'hui, vous voulez que l'on dialogue un débat national à l'interne. Mais pendant que vous faites ce débat national, l'agresseur avance. J'aurais aimé que des propositions concrètes faites, qu'on nous dise avant qu'on ne parle de nos querelles internes. Taisons-les, parce que ce dialogue-là vise également à caresser les uns et les autres dans le sens de leur poil après ce qu'ils appellent hold-up électoral. Ça peut venir après. Mais pour le moment, j'aurais aimé que des propositions faites qu'on nous dise, parce que nous sommes face au Rwanda, qui est armé par ses partenaires. Nous ne pouvons pas faire que les FARDC comptent seulement sur leurs propres forces. Faisons aussi des alliances pour le moment avec d'autres pays partenaires qui peuvent a priori nous aider à mettre fin à cette guerre. Rien de tout ça, on propose le dialogue avec quel cahier des charges. Madame, c'est de la distraction. Ça c'est de un. De deux, il ne faut pas que ceux qui sont déçus du fait qu'ils ont perdu les élections rebondissent haut et fort sur les revendications non avérées du M23 qui parle du retour à la vérité des urnes entre guillemets, comme si le M23 avait participé aux élections de 2011. Non, c'est de la distraction. Le M23 n'a rien de tout ça. Il a un plan machiavélico-méphistophélico-démonologique pour prendre la République démocratique du Congo. La cohésion nationale est tributaire d'un dialogue, mais c'est pas le moment de dialoguer. C'est le moment de se faire une cohésion nationale sans condition pour d'abord bouter hors de la République l'ennemi et voir nos querelles intestines après. Par rapport à la mobilisation, que Giscard ne fasse pas croire à la population que tous ceux qui se fâchent parce que Goma est tombé, c'est contre le gouvernement de la République. C'est pour le gouvernement de la République. C'est pour le pays, mais ils incitent ce gouvernement à prendre ses responsabilités pour chasser. Aucun Congolais ne se réjouit du fait que Goma est tombé. C'est ça le patriotisme.
Giscard Koussema, la RDC a perdu une bataille, mais pas la guerre. Votre réaction?
Écoutez, cette guerre des mots-là risque de nous faire perdre le pays pour rien. Je voudrais d'abord aller rapidement dans les différentes réactions. Je commence par celle du Premier ministre Matata. Madame, si on est sérieux dans ces pays, le premier qui devrait déposer l'établi, c'est le Premier ministre. Parce qu'on se rappelle, au lendemain de son investiture, d'abord les jours de son investiture, il a dit qu'il venait pour d'abord mettre fin à la guerre. Deux jours après, on l'a vu prendre l'avion et aller jusqu'à Goma. Il est même allé jusqu'à Rutshuru, vous vous rappelez. Et il l'a dit de là qu'il venait pour mettre fin. Aujourd'hui, le pays est en train d'échapper à son gouvernement. Je crois que lui et ses autres surdoués, ils devraient humblement déposer parce qu'ils ont échoué. Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, par rapport aux autres réactions. Mais écoutez, madame, lorsqu'on parle de dialogue, de mettre fin, ici, on ne voudrait pas faire la politique du saupoudrage comme le fait le gouvernement. Et donc, il y a un feu, on vient juste couvrir alors que il y a encore, ça bouillonne encore sous les cendres. Je pense que ce qui devrait être fait ici, comme les autres, l'Église catholique vous l'a dit, il faut un dialogue. Le M23 dit, nous devons dialoguer parce qu'en dehors des accords avec nous, mais le gouvernement a des accords avec d'autres groupes armés, mais ceux-là aussi vont prendre les armes si on ne s'occupe pas d'eux. Deuxièmement, il y a des problèmes internes. La cohésion dont on veut parler ici, mais elle pose véritablement problème. Il n'y a que mon confrère ici qui est en retard pour comprendre que même le chef de l'État lui-même a déjà dit qu'il va dialoguer. J'ai suivi les ministres de l'information hier. Dans sa dernière déclaration, il a encore dit ici, c'est vrai qu'ici on veut jouer avec les mots, on évite les mots négocier, on trouve un autre synonyme, on dit non, on va évaluer les cahiers des charges du M23. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut pas tromper les gens. On est dans une logique où il faut mettre tout le monde ensemble. Parce que les causes, il y a des causes lointaines, il y a des causes proches et des causes lointaines. Je voudrais rassurer mon jeune frère. Peut-être qu'il n'était pas encore journaliste en 98. J'ai dit, les mêmes acteurs qui étaient là sont aujourd'hui en train de... Ils sont même parmi les surdoués. Ils sont nombreux d'ailleurs. Il y a des surdoués qui étaient avec les RCD qu'on avait qualifié d'une rébellion rwandaise, d'une agression rwandaise, et qui sont là et qui tentent de distraire les chefs de l'État. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'armée. Comment voulez-vous foncer dans l'option militaire lorsque du haut de la tribune vous déclarez que le numéro 1 de l'armée, celui qui est opérationnel sur le terrain, est en train de vendre des armes aux ennemis. Il est en train de vendre des armes aux Raia Mutomboki qui sont aujourd'hui justifiables devant la communauté internationale. Non, le pays a beaucoup de problèmes. Je crois que c'est le temps de pouvoir mettre tout le monde autour d'une table. Ce n'est pas, je voudrais surtout revenir sur ces triomphalismes de croire que les gens cherchent des places. Non, je vous l'ai dit, il y a des personnalités qui ont payé de leur prix ici pour avoir prévenu à ce moment-là, le M23 n'était même pas encore opérationnel. C'est pas pour rechercher des postes, ça, je peux rassurer Harold.
Les présidents ougandais Yoweri Museveni, le rwandais Paul Kagame et Joseph Kabila de la RDC ont exigé mercredi dernier à Kampala des rebelles congolais qu'ils se retirent de Goma, dont ils se sont emparés mardi. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer de Goma, ont déclaré dans un communiqué commun les trois chefs d'État réunis depuis mardi soir en Ouganda. Plus avec Lievin Bwinga.
Ce communiqué, lu en présence de trois chefs d'État par le ministre ougandais des Affaires étrangères, souligne qu'un plan est en train d'être transmis au M23 pour permettre aux rebelles de quitter Goma. Où qu'ils soient, nous leur disons de faire demi-tour et je peux vous assurer qu'ils vont le faire, a ajouté le président ougandais Museveni à la presse après lecture du communiqué. De son côté, le président Paul Kagame a déclaré aux journalistes que le fait même qu'il soit à Kampala montre sa volonté de contribuer à trouver une solution au problème de l'Est de la RDC. Les présidents Museveni et Kagame ont ajouté que même s'il existe des revendications légitimes de la part du groupe M23, ils ne peuvent accepter l'extension de cette guerre ou accepter l'idée d'un renversement du gouvernement légitime de la RDC ou d'un affaiblissement de son autorité, explique le communiqué. Le gouvernement de la RDC, de son côté, a pris l'engagement de rechercher promptement les causes des désordres et d'y remédier du mieux qu'il peut, ajoute le communiqué final. Enfin, Kabila a souligné que tout nouveau contact entre le gouvernement et le M23 sera basé sur le rapport d'évaluation de l'accord de 2009 rédigé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
De son côté, le M23 exige au préalable un dialogue avec le président Kabila avant tout retrait de Goma. Le président du M23 se trouve en ce moment à Kampala où il a été invité par le président ougandais Yoweri Museveni. Entre-temps, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni a condamné les activités du M23 et exige le retrait de ce mouvement, de ses positions et l'arrêt des violences. violence contre les civils. Harold Bellarmine, Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, il nous reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Vous pensez que la demande des 3 présidents rwandais, ougandais et congolais au M23 aura un impact sur la situation sur terrain?
Dans le rouage de relations internationales, il ne faut pas que l'on s'étonne qu'un sommet international fasse des recommandations. Il n'y a que ça, c'est prévu. Mais ces recommandations ne peuvent avoir d'effet que s'il y a un suivi qui ne peut être réel et réaliste que si chacun des pays membres de la CIRGL joue au franc jeu, et que si chacun de ces pays membres de la CIRGL lit l'acte à la parole. Et donc moi je ne doute pas du fait que du fait de la pression qu'il y a sur le M2023, donc venu de la CIRGL, du Conseil de sécurité des Nations Unies et même de la France, que aujourd'hui ou après aujourd'hui que le M23 se retire de la ville de Goma et même de Masisi. Je voudrais préciser que nous ne pouvons pas penser que si la République démocratique du Congo est sur la voie de la diplomatie, c'est seulement sur cette voie qu'elle est. Joseph Kabila l'avait promis, il avait dit que pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo, le pays s'est engagé sur 3 fronts. Le front diplomatique, le front militaire et le front politique. Bon, qui ne semble, c'est l'impression que nous avons. Si le front militaire ne marchait pas, madame, avec tout ce qu'il y a comme plan machiavélique contre le Congo, nous aurions perdu tout le Congo aujourd'hui.
En conclusion,
je dis que nous n'avons de plus cher que ce Congo. Que ceux qui pensent que nous sommes venus pour les accompagner dans leur mauvais plan et de flirter avec l'ennemi de la République basé je ne sais pas moi où pour faire main basse sur le Congo, qu'ils déchantent étant donné que ce que Jean-Paul Sartre appelle l'eschatologie du grand soir est en train de venir et n'épargnera personne qui sera trempé dans le complot contre la République, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition.
Merci Bellarmine Badibanga, Giscard Koussema. Les M23 exigent au préalable un dialogue avec Joseph Kabila avant tout retrait de Goma. Est-ce que ça ne va pas bloquer la situation?
Écoutez, lorsqu'on est dans une situation de guerre comme celle-ci, il faut voir les rapports des forces. Et ce n'est pas à moi ici de dire maintenant comment se présente l'échiquier des rapports des forces. Moi, le plus important, c'est que au moins ces insurgés donnent une voie de sortie. Ils ont dit qu'ils sont prêts à se retirer. Les problèmes des Congolais, ne soyons pas, s'il vous plaît, prisonniers des sommets. Les solutions ne viendront jamais des sommets, ne viendront jamais des résolutions. Les conflits israélo-arabes, je ne sais pas si vous pouvez me donner le nombre de résolutions prises par le Conseil de sécurité. On en parle de tout le temps. Entre temps, sur le terrain, la situation ne change pas. Dès lors que la communauté internationale a déjà mis une armée ici, il n'y aura pas une autre. Ne pensez pas qu'en dehors de la MONUSCO, on va aller prendre l'OTAN ou je ne sais quel l'autre force pour venir ici. Il faut prendre la balle au bon. Ces insurgés ont dit qu'ils veulent bien parler, mais ils ne sont pas égoïstes. Il n'y a pas que eux. Il y a d'autres problèmes parce que ces problèmes s'entrelacent. Ces problèmes ont des liens entre eux. Je vous ai dit tout à l'heure ici. Lorsqu'on est dans un pays où certains médias, sans raison aucune, sont fermés, c'est un problème.
Est-ce que ce n'est pas pour amadouer la population, pour que la population les accepte, qu'ils disent qu'il faut associer les autres forces
écoutez,
de la République?
Lorsqu'on par l'avancée des troupes de l'AFDEL, le RCD et même ceci, on comprend comment réagit la population. Vous savez, il y a des effets d'entraînement dans l'affaire de Goma. Si la solution n'est pas prise, même le peu de population qui sont encore derrière les gouvernements, lorsqu'ils vont se sentir coincés, ils vont lâcher parce que les gens sont tellement, souffrent tellement que... Ah bien sûr, je l'ai dit.
C'est
bien.
Pas le peu, la totalité de la population
derrière le gouvernement.
C'est avec ces discours que le maréchal a quitté Kinshasa. Ça même, c'est avec ces discours que Mzé est parti. Je crois qu'il faut être réaliste et voir la vérité en face. On a besoin d'une solution durable dans ce pays.
Merci Jusqu'à Koussema, c'est la fin de cette émission. Merci aux invités d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Merci à Samuel Kacha qui est à la réalisation, à la technique. C'était Guy Manzangou. Au micro, Kéline Kouté, sous la supervision de Ben Kabamba. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Vous pouvez la réécouter demain à 4h15, heure de Kinshasa. Une heure de plus dans toute la partie est et centre du pays. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.